autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Igor Strauss.
Bonjour et bienvenue. Il n'y a pas de réflexion possible sur le présent et le futur sans une conscience claire des origines, sans une analyse maîtrisée des commencements. Voilà ce qu'on peut lire dans l'introduction d'Une histoire des civilisations, un nouvel ouvrage majeur sur la trajectoire des sociétés à travers les âges, une vision globale de l'aventure humaine qui couvre l'ensemble des périodes et des continents et qui nous permet effectivement de mieux appréhender le passé de nos lointains cousins. Grâce aux extraordinaires progrès techniques et méthodologiques de l'archéologie et grâce aux contributions de 71 spécialistes mondiaux, des pans entiers de notre histoire ont été mis à jour. C'est donc une histoire renouvelée des civilisations que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir aujourd'hui. Considérer le passé, c'est s'affranchir de l'immédiateté, paraît-il. Faisons donc une pause et remontons le temps autour de la question « Comment l'archéologie bouleverse nos connaissances ?» Jean-Paul Demoule, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et ancien président de l'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, professeur à l'Université Paris-1-Sorbonne et directeur de l'ouvrage Une histoire des civilisations, donc une coédition INRAP La Découverte. Il n'y avait pas d'ouvrage semblable avant cela, une vision qui globale voilà, de l'humanité?
Non, j'en vois pas. Il y a une trentaine d'années, il y avait quelque chose qui s'en approchait, mais pas complètement l'encyclopédia universaliste.
L'encyclopédia, ouais.
Mais actuellement, il n'y a rien. Je pense même que sur le marché anglo-saxon, il y a rien de comparable non plus. C'est-à-dire qu'il soit à la fois totalement global, enrichi par l'archéologie et qui soit en même temps accessible.
Oui, parce que c'est pour le grand public.
Oui, c'est vraiment pour le grand public, donc on a été obligé d'être très synthétique, d'une part, mais en même temps très, très accessible.
Alors cet ouvrage replace un peu l'archéologie au centre du débat. Les archéologues ne sont plus les auxiliaires des historiens, comme vous avez dit sur une autre radio.
Oui, c'était la définition de l'archéologie, une discipline auxiliaire de l'histoire. C'était au 19e siècle, il y avait même un savant allemand qui avait dit les archéologues, c'est les analphabètes de l'histoire, puisque justement, ils n'ont pas de texte, ils n'ont pas d'écriture. Donc, dans cette vision-là, la vérité, c'était dans les textes, et les archéologues étaient juste chargés d'illustrer les textes. Depuis, on s'est aperçu, comme on dit maintenant souvent, que les textes sont à la fois partiels et partiaux. C'est une petite vision de la société, en général, de la couche dominante et de ses scribes, et que ça nous dit rien, ces textes, sur la vie quotidienne, les techniques, l'économie, etc. Et deuxièmement, l'écriture, ça n'existe que depuis 5000 ans, c'est-à-dire rien, et uniquement là où il y a eu les premiers états du monde, c'est-à-dire Mésopotamie et Chine et après Inde, donc c'est une toute petite partie du monde.
Alors que les archives du sol sont beaucoup plus anciennes, évidemment.
C'est 7 millions d'années, donc c'est 99,99% ouais. De l'histoire humaine, il n'y a pas de texte.
Mais alors en quoi ce dialogue justement entre les sources textuelles, entre l'histoire donc, et ses sources matérielles, bouleverse plusieurs domaines de l'histoire. Qu'apporte ce livre finalement encore ?
Bah, c'est d'une part toutes les périodes pour lesquelles il n'y a pas de texte, donc le livre est divisé en quatre grandes parties, en gros qui correspondent aux quatre grandes formes sociales que l'humanité a plus ou moins connues, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs, puis l'agriculture, les villages sédentaires, ce qu'on appelle dans notre jargon le néolithique, puis les premiers états. Et enfin, les empires. Les premières parties, là, il n'y a pas de texte, mais pour les parties plus récentes, les premiers états, la Grèce, Rome, la Mésopotamie, eh bien, sans l'archéologie, on aurait une vision extrêmement étriquée de ce qui s'est réellement passé. Et quelquefois même, on a des contradictions entre ce que vont nous dire les textes et puis la réalité qu'on constate sur le terrain.
Alors, ce livre propose un renouvellement des approches non-européo-centrées, justement. Est-ce que ça change change vraiment les choses. Vous avez fait appel à plein de spécialistes du monde entier, finalement.
Oui. Il y a un tiers de collègues qui sont étrangers. Et on a veillé soigneusement, justement, à être pas centré sur l'Europe. Il n'y a pas de découpage non plus sur les frontières des États actuels. C'est pas ça qui nous intéressait. C'est par grande civilisation qui, la plupart du temps, recoupait pas du tout les frontières politiques actuelles, et en insistant justement sur tous les autres continents, qui sont des choses beaucoup moins inconnues. Tout le monde connaît à peu près l'histoire et l'archéologie de la Grèce ou de Rome, mais beaucoup moins ce qui a pu se passer en Amérique du Nord pendant les 2000 dernières années avant la conquête européenne ou la Chine.
Parce que l'archéologie est moins développée, tout simplement, ou pourquoi est-ce que certaines civilisations sont moins connues?
Non, c'est plus, je pense, c'est beaucoup plus un poids, une lourdeur culturelle, et on voit, y compris dans l'enseignement en classe, on n'apprend pas qu'il y avait aussi des États et des empires en Afrique dès le Moyen-Âge, alors que on sait qu'il y a la Grèce et Rome, et que les programmes scolaires nous disent en général, on commence l'enseignement donc secondaire avec les grandes civilisations, et comme par hasard, ces grandes civilisations, c'est uniquement l'Orient, la Grèce et Rome.
Alors, on a complètement oublié l'Afrique. Oui. Pourtant, l'archéologie en Afrique est importante, mais peu développée, c'est ça?
Oui, c'est le problème. C'est que l'archéologie a d'abord été faite par les États colonisateurs, qui ont aussi privilégié, si on prend que l'Afrique du Nord, on a privilégié l'occupation romaine, qui était censée être plus noble. Et puis, pour l'Afrique subsaharienne, il y a eu très peu de choses, des missionnaires ou les soldats, et maintenant il y a beaucoup de problèmes comme on sait, géopolitiques qui font que la recherche y est pas facile, et puis c'est un territoire gigantesque par rapport à l'Europe, et donc on n'arrête pas de découvrir de nouvelles choses, parce qu'il y a très peu d'archéologues en comparaison de, par exemple, l'Europe ou tous les pays les plus industrialisés. On avait organisé avec l'INRAP en 2007 un colloque à Nouakchott, justement, sur l'archéologie préventive, c'est-à-dire le sauvetage des sites archéologiques avant l'aménagement. Il y a même eu un appel de Nouakchott. Hein. Ce colloque a été publié, mais ça n'a quand même pas été suivi de beaucoup d'effets, faute de moyens.
Alors, l'archéologie a connu des progrès techniques et technologiques qui ont permis justement de révéler des pans entiers de l'histoire qui étaient méconnus. Quelles sont ces techniques nouvelles, justement? Qu'est-ce qui vous a aidé fondamentalement?
Elles sont extrêmement variées, c'est-à-dire que c'est aussi bien les techniques...
Aussi bien les drones que...
Oui, ce qu'on appelle le LIDAR, par exemple, qui sont des systèmes de radar qui maintenant percent la végétation, ce qu'on ne savait pas faire avant, qui a permis de découvrir des villes nouvelles aussi bien au Mexique qu'au Cambodge. Donc ces méthodes de découverte, et après toutes les méthodes d'études, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de reconstituer l'environnement, l'étude de la faune, de la flore, les pollens, l'étude des techniques, la provenance des argiles, des métaux, les sources de silex qui permettent de reconstituer tous les réseaux d'échange, et puis également d'un point de vue biologique la génétique maintenant qui permet de retracer des migrations. Donc ça n'arrête pas, ça suppose effectivement un travail interdisciplinaire constant avec nos collègues des autres sciences, et les archéologues peuvent pas non plus être compétents dans tout, mais être capables de repérer des nouvelles possibilités, des nouveaux champs, et un travail interdisciplinaire.
Il y a aussi des nouvelles techniques de datation beaucoup plus précises. On n'en est plus au carbone 14, en fait.
C'est de plus en plus précis, Par exemple, pour prendre un exemple tout à fait récent, il y a 2 ans, on connaissait dans une grotte du Tarn-et-Garonne à Bruniquel des cercles faits de stalactites cassées. Il y avait 2 ou 3 cercles d'à peu près 3 mètres de diamètre chacun. Et puis, c'était les limites de datation du carbone 14. Il y avait quelques charbons, donc on savait que c'était, donc la limite, c'était au moins 50 000. Et puis, on a une nouvelle méthode qu'on appelle le uranium-thorium qui permet de dater précisément le moment où on casse les stalactites parce qu'il y a formation après de calcite, sans entrer dans le détail. Et on s'est aperçu à ce moment-là que ces cercles avaient été fabriqués il y a 176 000 ans, c'est-à-dire une époque où il n'y avait pas d'Homo sapiens, vous et moi, en Europe. Donc c'était les néandertaliens, les hommes de Néandertal qu'on s'imagine traditionnellement comme des brutes épaisses avec une massue et qui traînent leurs femmes par les cheveux au fond de leur grotte, et que c'était eux qui avaient fait ces structures extrêmement étranges, élaborées, qui avaient été capables de rentrer au fond des grottes, donc de s'éclairer, etc. Et donc cette méthode-là a complètement transformé notre vision de l'homme de Néandertal.
Alors, l'ouvrage s'intitule « Une histoire des civilisations », mais qu'est-ce qu'une civilisation, finalement, pour un archéologue ? Souvent, vous parlez de société, mais là, c'est civilisation.
Oui,
c'est...
oui, on a pris ce terme de civilisation plus effectivement pour être plus accessible pour le grand public, parce que tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'une civilisation, même si c'est un terme un peu ambigu, parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ne seraient pas civilisés, par exemple. C'est ce que je citais tout à l'heure, l'arrêté ministériel qui parle des grandes civilisations. Donc ça veut dire qu'il y en aurait des petites ou même des gens qui ne seraient pas civilisés, mais par ce terme, on commence avec les premiers humains il y a 7 millions d'années. Donc on entend civilisation, c'est une région géographique à un moment donné du temps qui pendant quelques siècles va avoir une homogénéité dans ses productions matérielles, dans son mode de vie.
Et comment naît finalement une civilisation, puis comment meurt-elle ? Alors on parlera de la période néolithique tout à l'heure, dans quelques instants, mais grosso modo, en vulgarisant.
C'est une espèce de brassage permanent, c'est-à-dire de recomposition à partir de
parce qu'il n'y a pas d'origine, c'est ça finalement. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. La question des origines est remise en cause.
Il n'y a jamais d'origine à rien, si vous voulez. Même on ne peut pas dire qu'il y a une origine de l'homme parce que c'est insensiblement détaché des primates. Ouais. Oui, il n'y a pas d'origine de la France, pour le dire en mettant les pieds dans le plat. Ça a été sans arrêt, effectivement, des brassages et des recompositions.
Nos ancêtres viennent du Proche-Orient, si j'ai bien compris.
entre autres, effectivement. Oui.
Donc, en gros, la notion d'origine n'a aucun sens.
Non, ça n'a aucun sens.
Autour de la question sur RFI.
Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison. Je suis pas mieux.
suis un homme, Zazie sur RFI, autour de la question comment l'archéologie bouleverse nos connaissances. Et nous sommes toujours avec notre invité ici dans le studio, Jean-Paul Demoule. Alors Jean-Paul Demoule, vous êtes un spécialiste du néolithique. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous regrettez que les programmes scolaires commencent généralement la création des empires et oublient cette période. Je vous propose donc de remédier à cela pendant cette émission et de revenir sur cette révolution néolithique qui voit certaines sociétés adopter l'agriculture et domestiquer les animaux. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous faire un petit résumé, entreprise ambitieuse, je l'avoue, mais de la période juste avant, qu'on comprenne le contexte.
La période juste avant, c'est les 7 millions d'années d'évolution des humains.
C'est pour ça que l'entreprise est ambitieuse.
qui se passe pendant les 5 premiers millions d'années en Afrique, de manière très buissonnante. D'ailleurs, il n'y a pas une origine de l'homme à un endroit. On l'avait à un moment fixé dans l'Afrique de l'Est, puis ou avant en Afrique du Sud. Et on s'aperçoit maintenant qu'il faut imaginer un buissonnement permanent de primates évoluant, se croisant sans arrêt, mais en restant en Afrique jusqu'à il y a 2 millions d'années. Et puis il y a 2 millions d'années, une partie d'entre eux, ce qu'on appelle les Homo erectus, sortent d'Afrique, mais très progressivement, hein, faut pas imaginer une sortie en rang serré, et se répandent dans toute l'Eurasie, et évoluent ensuite sur place, donnent plusieurs espèces, dont les plus connues sont l'homme de Néandertal. Et puis il y a 300 000 ans, émerge toujours en Afrique une nouvelle espèce qui est l'Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, et dont une partie va à son tour sortir d'Afrique et se mélanger avec ses cousins partis avant. Et jusque-là, on vit de chasse, de cueillette et de pêche.
C'est le temps des chasseurs-cueilleurs.
Voilà, avec des humains qui ont continué. Là, on a parlé ces dernières semaines, cette fameuse île des Sentinelles dans l'océan Indien, au large de l'Inde, où il y a encore parmi les derniers chasseurs-cueilleurs, parmi lesquels il faudrait que...
Ou un jeune Américain a trouvé la mort, voilà, en tentant les évangéliser.
Oui, il voulait se battre contre Satan. Et donc ça a mal fini, c'est Satan qui a gagné. Et il est aussi les Inuits, donc les Esquimaux, et un peu encore dans le Kalahari, il y a encore quelques chasseurs-cueilleurs. Mais nous, les agriculteurs, on les a sinon assimilés et repoussés. Alors il y a des mille ans, effectivement, commence à apparaître dans plusieurs régions du monde, donc de manière complètement indépendante, les premières tentatives de domestication d'animaux et de plantes. En fait, ça a commencé encore avant, où des chasseurs-cueilleurs, pendant la période encore froide qu'on a connue jusqu'à il y a moins 10 000 ans, avaient commencé à domestiquer le chien à partir du loup. Plutôt par association d'intérêt, c'est pas pour manger, mais par association d'intérêt. Donc ils connaissaient déjà...
C'était pour chasser ensemble, tout simplement.
Oui, voilà, c'est ça. Chacun, c'était gagnant-gagnant, si on peut dire. Mais à partir de moins 10 000, on est dans une période qu'on appelle interglaciaire, la période actuelle. Avant, ça faisait 115 000 ans qu'il faisait très froid.
Les glaciers descendaient jusqu'en Belgique, je crois.
Oui, jusqu'en Belgique.
Donc difficile de cultiver avec un tel climat.
Voilà, et le niveau de la mer était 150 mètres plus bas, puisque une partie de l'eau était dans les glaces, justement. Et c'est une alternance très régulière qui est liée à l'oscillation de l'axe de la Terre par rapport au Soleil, et donc l'actuelle interglaciaire devrait durer encore de 3-4 000 ans, normalement, avant la prochaine glaciation, si tout va bien. Et donc là, on a coïncidence entre cette période interglaciaire et puis des humains, des Homo sapiens, qui continuent d'évoluer. On voit qu'ils continuent d'évoluer, puisqu'il y a 40 000 ans, ils se mettent à faire des dessins, à représenter ce qu'ils ne faisaient pas jusque-là. Donc cette coïncidence fait qu'un certain nombre de chasseurs-cueilleurs ont l'idée de domestiquer les animaux et les plantes, de se sédentariser. Donc c'est ce qu'on appelle classiquement la révolution néolithique. Néolithique, c'est en grec l'âge de la pierre nouvelle. Et donc tout va changer. Ces 10 000 ans, c'est rien par rapport à la durée de l'humanité. C'est, on se la représente sur 10 mètres de long, c'est le dernier millimètre en gros. C'est rien du tout. Mais
c'est des bouleversements extrêmement conséquents, effectivement. C'est donc le réchauffement climatique, tout simplement, qui permet d'accentuer l'agriculture, de permettre à un plus grand nombre d'homo sapiens de cultiver, c'est ça ?
C'est ça qui donne l'idée à un certain nombre de chasseurs-cueilleurs dans des points séparés.
Et pourquoi ils cultivent au départ homo sapiens ? C'est juste curieux de nature ? Quel est son intérêt ?
C'est quand même un primate relativement curieux. C'est le seul primate qui migre aussi. La plupart des primates qu'on connaît restent sur leur territoire. Donc il est curieux, il fait des expériences. Ces expériences, c'est pas un coup de génie. Il faut imaginer plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, éventuellement avec des retours en arrière, des abandons, etc. Et qui font que progressivement, à l'époque, il y a à peu près un million d'humains sur l'ensemble de la Terre. Et on va passer en 10 000 ans, c'est-à-dire en rien du tout, à 7, 8, 9 milliards d'humains uniquement à cause de ça, parce que on est sédentaire, on sécurise la nourriture, les chasseuses-cueilleuses nomades ont un enfant tous les 3-4 ans, les agricultrices sédentaires...
Alors là, vous anticipez, parce qu'on va y revenir. D'abord, oui. Je voudrais qu'on revienne sur ces plantes. Quelles sont d'abord les premières plantes domestiquées? Vous nous parliez et des animaux domestiqués. Vous nous parliez du chien, mais il y en a d'autres. Oui. Comment ça se fait et où, principalement? Au Proche-Orient, en Mésopotamie?
Il y a 6 ou 7 points sur le globe, mais qui font qu'après, ça va s'étendre, effectivement. Mais on va y revenir. Donc, il n'y a rien en Europe. Ce qui nous concerne, ça se passe uniquement au Proche-Orient, le long de l'extrémité orientale de la Méditerranée. Il va y avoir la Chine du Nord, autour du fleuve Jaune, et la Chine du Sud, autour du Yangtze. Au Proche-Orient, on va se concentrer sur le blé et l'orge, et pour les animaux, moutons, chèvres, bœufs et porcs, qui va ensuite constituer la base de l'économie paysanne en Europe. Chine du Nord, ce sera plutôt le millet, et en Chine du Sud, le riz, et avec à chaque fois le buffle, le poulet et le porc. Et puis, on a le Mexique, le Mexique actuel, et le Pérou. Là, il y a peu d'animaux qui vont être domestiqués, à part le lama et le dindon et le cochon d'Inde, donc ça va jouer un rôle moins important. Notamment, il n'y a pas d'animal capable de porter ou de tirer des charges lourdes, à part le lama, mais ça mène pas loin, donc il n'y aura pas d'invention de la roue. Le principe de la roue est connu, mais il n'y aura pas d'invention de la roue. Le maïs et la pomme de terre. Donc, à chaque fois, dans ces zones-là, ce qui va jouer un rôle important, ça va être une céréale majoritaire. Le maïs en fait partie, le maïs ou le riz, le blé, l'orge, le sorgho en Afrique. Et le fait que ce soit que les céréales aient été privilégiées va jouer ensuite un rôle très important dans l'émergence des États.
Alors, comment l'agriculture et l'élevage arrivent en Europe et que devient Cro-Magnon à ce moment-là? Et comment c'est perçu finalement quand des groupes de chasseurs-cueilleurs rencontrent des gens qui pratiquent l'agriculture? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils l'adoptent? Est-ce qu'il y a affrontement?
Jusqu'à présent, on n'a pas de preuves archéologiques de massacre des chasseurs-cueilleurs, comme ce qui s'est passé avec l'invasion européenne aux Amériques ou en Afrique. Ce qu'on voit, c'est aussi bien dans l'archéologie, dans les objets, on voit un front de colonisation, c'est-à-dire que partant du Proche-Orient, y compris la Turquie, ils passent d'abord dans les Balkans, donc l'Europe du Sud-Est, et puis ils vont avancer au rythme de vingtaines de kilomètres par génération. Comme il y a un boom démographique, le surplus de population, une partie des villages va aller un peu plus loin. Et comme ça, en 2000 ans, ils vont atteindre l'océan Atlantique. Et une fois qu'on arrive à l'océan Atlantique...
On est bloqué.
On est bloqué jusqu'à Christophe Colomb. la population ne va pas arrêter d'augmenter dans un espace fini.
Alors ça, on y reviendra aussi tout à l'heure, parce que c'est extrêmement important. Mais à partir de quel moment l'homme se sent-il dominant par rapport à la nature? Parce qu'avant, il se considère comme un animal, comme un autre, finalement. À partir du moment où il commence à la dompter, cette nature, qu'est-ce qui se passe?
Oui.
Et comment il réalise, finalement?
On voit bien que les humains, traditionnellement, tant qu'ils sont chasseurs-cueilleurs, se considèrent comme une espèce animale comme une autre. Que prouvent les peintures sur les grottes, où on représente essentiellement des animaux, des milliers d'animaux. Et on sait que les populations traditionnelles pratiquent ce qu'on appelle le totémisme, c'est-à-dire que chaque groupe humain se dit descendre d'un ancêtre mythique qui, en général, est un animal. Et on ne tue pas aveuglément, on demande l'autorisation de tuer aux esprits des animaux, on remercie. Donc les humains se sentent immergés dans la nature, à juste titre, parce que ce n'est pas au départ l'espèce animale la plus forte. Il y en a d'autres beaucoup plus dangereuses pour lui. Et donc ce qui se passe avec cette affaire de domestication des animaux et des plantes, c'est effectivement un nouveau rapport à la nature. Mais on ne sait pas ce qui... C'est comme une mayonnaise, c'est tout à la fois. On ne sait pas ce qui a été premier. Il ne s'est pas dit un jour, j'en ai marre d'être dominé, je vais dominer. Mais ces expériences qu'il a pu faire vis-à-vis des animaux, en apprivoisant des jeunes animaux capturés, et en favorisant la pousse de certaines plantes sauvages au détriment d'autres, fait que petit à petit, en même temps, ça a transformé son regard sur la nature. Et il a pris cette position sur laquelle on vit toujours, qui est de... dominer, effectivement, de sentir comme dominant et non pas comme appartenant à la nature.
Alors, qui dit agriculture dit sédentarisation, qui dit sédentarisation dit création de villages. À partir du moment où les villages se créent, est-ce qu'il y a la notion d'appartenance à un groupe qui est plus définie? On sait que les groupes de cueilleurs-chasseurs étaient des petits groupes. À partir du moment où ils se regroupent dans un village, comment ça se passe, la hiérarchisation sociale et les rapports entre villageois?
Aussi bien l'archéologie que l'ethnologie montrent que les chasseurs-cueilleurs nomades sont effectivement ces petits groupes d'une trentaine d'individus. À partir du moment où on a des villages sédentaires, on voit que c'est dans un premier temps 100 ou 200 personnes. Il y a toujours un sentiment de groupe déjà chez les chasseurs-cueilleurs, aussi bien comme ont pu l'observer les ethnologues, que dans la préhistoire, on voit que suivant les régions, c'est pas tout à fait les mêmes animaux, les mêmes signes qu'on va tracer sur les parois des grottes, etc. Donc il y a un sentiment d'appartenance, et cet sentiment d'appartenance, on va le retrouver au néolithique, comme on produit beaucoup plus d'objets, c'est plus facile à voir. Par exemple, dans une région donnée, les poteries vont avoir tel type de décor qui va changer dans la région d'à côté, etc. Donc il y a effectivement ce sentiment d'appartenance de groupe qui existe toujours aujourd'hui, y compris par défaut, quand on a le sentiment de chercher une appartenance qu'on ne trouve pas.
Alors, autre changement radical, l'alimentation. Du coup, est-ce que les transformations physiques s'opèrent à ce moment-là? Et y a-t-il de nouvelles pathologies? Et ça, je vous pose la question également en raison du fait de vivre avec les animaux. Comment ça se passe, du coup?
Bien, promiscuité avec les animaux va effectivement changer beaucoup de choses. L'alimentation aussi, c'est à l'alimentation carnée de la chasse et de la cueillette succède une alimentation qui va être en partie plus sucrée et plus molle, avec bouillie de céréales, etc. C'est le moment où on voit les caries qui sont pratiquement inexistantes, que démarrent avec le néolithique, surtout qu'en plus on broie le blé sur des meules en pierre, donc ça fabrique du sable aussi qu'on a dans les dents. La promiscuité avec les animaux va créer effectivement des maladies comme la brucellose, mais aussi la tuberculose et des tas d'autres qui étaient inexistantes, puisque en plus les petits groupes étaient séparés. Là, maintenant, avec une humanité qui grandit, eh bien ça va être beaucoup plus important. Et on imagine que très régulièrement, il y a dû y avoir des effets terrible de ces épidémies, qui est une des explications. De temps en temps, on voit une désertification, une raréfaction des habitats dans une région donnée. Mais en même temps, effectivement, c'est une alimentation qui est plus sûre et qui permet cet accroissement démographique.
Jean-Paul Demoulon marque une petite pause en musique pour vous laisser le temps de respirer et de vous réhydrater. Mais restez avec nous, à tout de suite. La femme sur RFI, autour de la question « Comment l'archéologie bouleverse nos connaissances ?» Nous sommes toujours avec notre invité, Jean-Paul Demoule, archéologue et ancien président de l'INRA, professeur à l'université Paris-1-Sorbonne et directeur de l'ouvrage « Une histoire des civilisations », une coédition INRAP La Découverte. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Jean-Paul Demoule, la sédentarisation va entraîner une explosion démographique puisqu'on passe d'un enfant tous les 3 ans chez les chasseurs-cueilleurs à un enfant par an dans les sociétés sédentaires, même si la mortalité y est importante. Cela pousse donc les agriculteurs à migrer. Migration donc, mais les sociétés se retrouvent bloquées à un moment donné par les mers ou les océans. Et cela, ça va avoir 3 nouvelles conséquences.
Oui. Ça veut dire que dans le même espace, donc avec les mêmes ressources potentielles, il va falloir nourrir de plus en plus de monde et de manière continue. Et on est toujours dans cette trajectoire puisque on sait que chaque année, les ressources.
Il faut nourrir plus de monde.
C'est ça. Et qu'on est en train d'épuiser effectivement les ressources. Donc à chaque fois. Il faut trouver des nouvelles techniques. Actuellement, on a cette agriculture très très chimique qu'on a développée dans les dernières décennies. Et au néolithique, on va commencer à inventer la roue et la traction animale par des bœufs et des chevaux. On va inventer la charrue pour retourner les sols et pouvoir cultiver plus. On va coloniser au début, on a colonisé que les plaines les plus fertiles. Là, on va s'installer partout. Et ça explique que les humains soient, alors que c'est une espèce africaine à l'origine, soit dans les endroits les plus invraisemblables, au Tibet, dans le Grand Nord, etc. On va inventer le métal, le cuivre, puis le bronze, puis le fer. Donc, sans arrêt, des progrès continuent et ça va effectivement pas s'arrêter. Le deuxième point, c'est que quand ces sociétés comme ça ne peuvent plus pratiquer cette fuite en avant extensive dans l'espace, c'est là qu'on voit apparaître à ce moment-là les premières différenciations sociales. Comme l'archéologie le voit, avant on a des cimetières où les tombes ont à peu près toujours la même chose, même si ça peut varier suivant le sexe et l'âge. Et là on va arriver à partir, si on prend le cas de l'Europe, moins 4500 avant notre ère, où dans certaines nécropoles, des personnages vont être enterrés avec les premiers objets en or, alors que d'autres n'ont pratiquement rien. Ou sur les bords de l'Atlantique, on voit apparaître les premiers dolmens, qui sont des tombes massives, monumentales, recouvertes de tas de terre et de pierres pour manifester les gens importants. Et la troisième conséquence, ça va être le développement de la violence. Alors on a de la violence attestée chez les chasseurs-cueilleurs en Australie, où avant l'invasion européenne, il n'y avait que des chasseurs-cueilleurs. Il y a effectivement de temps en temps des formes de vendetta violentes qui peuvent être attestées. Mais là, la violence va s'organiser, se codifier, ce qu'on peut, comme on passe de la vendetta à la guerre proprement dite, et on va inventer des armes, et grâce au métal, on va inventer à la fois l'épée qui permet de tuer de plus loin, mais symétriquement le casque, le bouclier, les jambières, et ça sera...
Donc c'est vraiment là qu'apparaît ce qu'on appelle la guerre, c'est vraiment à ce moment-là? Petit conflit, ça arrivait.
Oui, c'était local, ça pouvait être violent, mais ça restait relativement limité. À partir de la fin du néolithique, à partir de 3500, on voit apparaître vraiment des phénomènes guerriers, encore plus tôt en Mésopotamie et en Égypte, en tant qu'on définit la guerre effectivement comme une violence qui est organisée et systématique et pas seulement des vendettas localisées.
Alors, je reviens sur un point, les tensions territoriales qui apparaissent en raison du manque de terres, mais est-ce qu'il y a déjà la notion de propriété privée à l'époque ?
C'est assez difficile de le savoir parce que aussi bien l'ethnologie que l'histoire nous montrent que ça peut être très variable. Par exemple, les communautés villageoises russes jusqu'au 19e siècle, ce qu'on appelait le Mir, on redistribuait régulièrement les terres à l'intérieur de la communauté. Donc cette notion de propriété privée, on la voit de notre point de vue d'occidental, mais il n'est pas certain qu'elle ait beaucoup existé. Mais en revanche, effectivement, un groupe avait son territoire.
Alors, les inégalités se renforcent, nous avez-vous dit. Mais comment et pourquoi certains ont accepté justement cette servitude volontaire dont parlait Laboétie au XVIe et que vous citez dans l'ouvrage?
C'est une éternelle question qu'on peut se poser aussi, toujours aussi bien aujourd'hui, où les inégalités sont nettement plus fortes qu'au néolithique, puisqu'on dit classiquement qu'un...
Ah mais le néolithique est très contemporain finalement, il y a plein de problèmes en commun.
Actuellement, 1% de la population a 50% des richesses,
exactement.
C'est beaucoup plus qu'au néolithique probablement. La Boétie pose ça, qui était un ami de Montaigne au XVIe siècle, pose ça il y a 500 ans, et on n'a toujours pas vraiment répondu. Lui fait trois hypothèses, et dit c'est l'habitude, il n'y a pas d'alternative, disait quelqu'un, donc ça peut être que comme ça, on ne peut pas changer. Deuxièmement, il dit c'est le système très hiérarchisé de la société issue de la féodalité, où le chef a le dominant, le tyran, comme dit la Boétie, a ses affidés qui eux-mêmes ont, etc. Et comme ça, de manière pyramidale, ça structure la société. Et troisièmement, il dit il y a la religion. Le tyran, il n'est pas du tout un croyant, c'était pas pensable à l'époque, mais il dit le tyran Mitterrand abuse de la religion pour mal faire, parce qu'il va dire que c'est Dieu qui l'a voulu. Et effectivement, quand on regarde aussi bien l'histoire que l'archéologie ou l'ethnologie, on voit que les chefs se donnent tout de suite comme d'une essence différente. Les rois de France étaient de droit divin, le pharaon faire venir les eaux du Nil, l'empereur du Japon descend droite ligne de la déesse du soleil. Donc il y a quelque chose qui fait que on est lié au surnaturel.
C'est ça, vous écrivez qu'il existe des indices archéologiques de cette manipulation de l'imaginaire.
Ben oui, par exemple, les chefs, ça va tourner autour de la mort des chefs, où on va construire ces tombeaux mégalithiques, ces dolmens, pour honorer les chefs, et autour desquels il va y avoir des cérémonies qui vont être faites. Donc on voit que tout de suite, il y a une manipulation de l'imaginaire de la part des dominants émergents, et qui vont utiliser à leur profit, sans doute en y croyant eux-mêmes, hein, puisque les rois de France pensaient vraiment que leur personne était sacrée, vont utiliser ça pour justifier leur pouvoir. Mais ça avait effectivement grandir au cours du néolithique, parce qu'au début, les chasseurs-cueilleurs, ils produisent pas plus, ils chassent pas plus que ce dont ils ont besoin, et beaucoup de populations traditionnelles vont pas le faire, mais à partir du moment où on va produire plus, ben, le leader qui est un peu charismatique, eh ben, va pouvoir devenir aussi un possédant économique à partir du moment où on va produire plus que les besoins du groupe. Et là, ça va être un cycle infernal, si on peut dire, mais qui est quand même pas linéaire, puisqu'on assiste à des moments où le pouvoir et les inégalités sont beaucoup moins visibles. Par exemple, ces grands tombeaux mégalithiques qui durent 400 ou 500 ans, et puis après, ils disparaissent et on trouve des coutumes funéraires beaucoup plus égalitaire pendant quelques siècles, et ainsi de suite.
Mais justement, la sédentarité des vivants entraîne bien celle des morts.
Oui.
Est-ce que c'est là justement qu'apparaissent ces tombeaux, ces cimetières?
Oui, tant qu'on est nomade, il n'y a pas de cimetière, on enterre le mort là où il est, ou l'enterre où il y a différentes façons, on peut l'exposer aussi dans les arbres, etc. Mais à partir du moment où on est sédentaire, et ben, effectivement, les morts sont sédentaires aussi, et c'est bien pour les archéologues.
Comment est perçue la mort justement à l'époque ? Est-ce qu'il y a une conscience de...
Bah, la mort est perçue très tôt, puisque déjà l'homme de Néandertal, il y a 100 000 ans, enterrait ses morts, et même des Homo erectus, il y a 300 000 ans en Espagne, on a des indices également de rituels funéraires. Donc c'est cette idée d'un au-delà de la mort qui est effectivement la chose la plus insupportable à vivre pour des humains, et bien cette idée de la possibilité réconfortante d'un au-delà semble très ancienne.
Quelle était la place des femmes pendant cette révolution néolithique?
La question de la domination masculine, elle a l'air présente dès les débuts de l'humanité. Certains se demandent si même la domination tout court, l'inégalité, s'enracine pas déjà dans la domination des hommes sur les femmes. On voit que déjà au paléolithique, on représente les seules représentations humaines, c'est des représentations féminines, mais complètement sexualisées, avec des caractères sexuels complètement exagéré. Donc on a l'impression que c'est la sexualité d'un point de vue féminin. Et ensuite, quand au cours du néolithique, quand apparaissent justement des personnages plus importants que d'autres, bah c'est très majoritairement des hommes, hein, toujours des hommes mâles.
Mais vous écrivez qu'elles auraient eu un rôle dans la domestication des animaux, puisque probablement les hommes, voyant les animaux, avaient tendance à les tuer, et qu'elles ont peut-être commencer à s'en approcher, à les apprivoiser.
On suppose qu'un rapport un peu différent à la nature, qui soit pas justement brutal, mais qui soit de conciliation, etc., pourrait faire appel, mais là c'est purement hypothétique, l'idée de capturer des petits animaux et de les entretenir, qui est une coutume qui est connue aussi chez des chasseurs-cueilleurs. En Amazonie, on a des exemples de chasseurs-cueilleurs qui vont apprivoiser des petits animaux animaux, mais comme animal de compagnie. C'est pas une chose récente, l'animal de compagnie, ils vont pas aller plus loin. Mais on suppose que ce rapport différent aux animaux peut être féminin. Les femmes dans les sociétés traditionnelles ne chassent pas, ne tuent pas, ne sont pas associées au sang dans pratiquement toutes les sociétés humaines qu'on connaît. Donc sont plutôt traditionnellement du côté de la vie et du côté plutôt de l'agriculture, alors que la chasse est plus prestigieuse, mais statistiquement la chasse apporte en général, en moyenne, un tiers des protéines, alors que l'agriculture est beaucoup moins valorisée, mais apporte les deux tiers des protéines.
Qu'apporte la révolution néolithique à la culture, à la peinture, à la musique ?
Ben, ça,
y a-t-il de la musique à l'époque, d'ailleurs? Ben, c'est une...
Chez les chasseurs-cueilleurs Homo sapiens, on a déjà des flûtes il y a 10 000 ans. On a des flûtes il y a 40 000 ans, je veux dire. On a des flûtes taillées dans des ossements de cygnes ou de vautours, aussi bien dans les Pyrénées que dans le sud de l'Allemagne. Il y a aussi ce qu'on appelle des rhombes, qu'on fait des losanges en pierre, qu'on fait tournoyer au bout d'une ficelle, ce qui se pratique encore Nouvelle-Guinée en Australie. Donc il y a de la musique. S'il y a de la musique, il y a très probablement de la danse. Et en tout cas, au moins au néolithique, on a la représentation.
Il y a la danse aussi, d'accord.
Oui, très probablement. Au néolithique, on a des représentations de danse collective, c'est-à-dire se tenant par les bras, une sorte de farandole, quoi, mais qui est la mode de danse de la plupart des sociétés traditionnelles. La valse ou le tango, c'est plus quelque chose. La danse à deux, c'est quelque chose de plutôt très moderne. Donc on a de la musique et de la danse, et à partir du moment où on va avoir le métal, et ben on aura de nouveaux instruments à la fois de percussion et avant, et de nouveaux sons. Au néolithique, on a déjà des tambours aussi en argile, comme on a en Afrique du Nord. Donc tout ça va être amplifié avec des nouvelles matières première, comme l'argile et le métal, ça va amplifier des choses qui sont déjà connues avant, mais qu'on va pouvoir généraliser avec des sociétés de plus en plus nombreuses et des cérémonies plus complexes, etc.
Alors, toutes les civilisations ont une fin. La sélection, en ce qui concerne donc le néolithique, la sélection des animaux les plus dociles, l'élimination par les agriculteurs des espèces qu'ils considèrent nuisibles ou inutiles, tout cela a une conséquence majeure sous la biodiversité. C'est la fameuse sixième extinction de masse, c'est ça? C'est comme ça que s'achève cette période néolithique?
Ça c'est l'aspect environnemental, celui qu'on continue à payer actuellement, mais elle s'achève surtout sur le fait que l'émergence des inégalités va dans un certain nombre d'endroits du monde donner naissance aux premières villes et aux premiers états. Donc avec des systèmes qui à la fois tiennent compte effectivement de l'organisation de populations de plus en plus nombreuses, mais qui en même temps vont donner des formes sociales encore plus contraignantes qu'avant. C'est l'État tel que nous connaissons actuellement. Et pour gérer, pour gérer ça, c'est là qu'on va inventer l'écriture. Des signes abstraits existent dès les débuts de Sapiens, mais là on va avoir l'invention de l'écriture pour gérer, savoir qui paye ses impôts, etc. Et là, on passe traditionnellement de la préhistoire dans l'histoire, puisqu'on définit l'histoire comme le moment où on a de l'écriture.
Donc, constitution de stocks de nourriture et de grains, donc création de villes, donc gestion des stocks, donc création de l'écriture pour gérer ces stocks. Si je schématise, c'est un peu comme ça que
c'est
l'écriture
ça.
Finalement.
Et ça apparaît effectivement là où il y a des céréales, parce que les céréales, on peut les compter, les stocker, les décompter. C'est beaucoup plus facile d'asservir des paysans céréaliers que des paysans qui cultiveraient du manioc ou du sagou.
Alors, la transmission, le partage des connaissances donne son son sens à l'archéologie, écrivez-vous. Merci donc de nous avoir transmis une partie de vos connaissances, Jean-Paul Demoule. Merci infiniment d'être passé dans ce studio. Je rappelle que vous êtes archéologue et ancien président de l'INRAP, professeur à l'Université Paris 1 Sorbonne et directeur donc de l'ouvrage Une histoire des civilisations, une coédition INRAP, La Découverte. Un grand merci à Sophia Bédard qui a programmé cette émission et à Hugo Violas qui en assurait la réalisation. Lundi prochain, vous retrouverez Charlie Dupiau derrière ce micro pour une émission sur les films de science-fiction autour de la question comment allier science et science-fiction. Moi, je vous dis bonne journée à tous et à très bientôt.